Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Jean Houche est mort, une nuit de février 2004, sur une route du Niger, dans cette Afrique qu'il avait tant aimée. Jeune ingénieur civil des ponts et chaussées, il y était venu en 1941 construire les routes de l'Empire colonial. Mais c'est finalement l'Afrique qui l'aura construit et fait de lui le très important cinéaste qu'il était devenu. Cinéaste ethnologue qui inventa une manière de faire qu'il nommait ciné-trans, subjective, empathique, en marge des convenances de son temps. Pionnier du cinéma direct, caméra 16 mm à l'épaule, au cœur de l'action, affirmant que le cinéma était avant tout une affaire de regard. Cela donna Les Maîtres Fous, Jaguar, Moi un Noir, Chronique d'un été avec Edgar Morin, ou encore Cocorico, Monsieur Poulet, pour ne citer que cela parmi plus de 150 films. Les réalisateurs de la Nouvelle Vague n'ont jamais manqué de rappeler qu'il leur avait ouvert la voie. Rouche, c'est le moteur de tout le cinéma français depuis 10 ans, bien que peu de gens le sachent, disait Jacques Rivette dans les années 70. Quant à lui, Jean-Luc Godard avait joliment noté « Jean Rouche n'a pas volé son titre de carte de visite, chargé de recherche au Musée de l'Homme. Existe-t-il une plus belle définition du cinéaste ?» En 1985, Antoine Speer recevait dans Voix du silence Jean Rouche, le griot blanc, qui ne croyait pas que le cinéma fût un métier et se considérait comme un amateur.
Du silence, une émission d'Antoine Speer
avec la collaboration de Daniel Enoch.
Aujourd'hui, une émission entière consacrée à Jean Rouche.
Au lièvre, va trouver les hommes et dis-leur, de même que je meurs et reviens à la vie, de même vous devez mourir et ressusciter. Le lièvre s'en va trouver les hommes et leur dit, de même que je meurs et ne reviens pas à la vie, de même vous devez mourir et ne pas ressusciter. Quand il revient, la lune lui demande, quel message as-tu porté aux hommes ? Je leur ai dit, de même que je meurs et ne reviens pas à la vie, de même vous devez mourir et ne pas ressusciter.
Quoi ? Crie la lune. Tu as dit cela ? Elle prend un bâton et le frappe sur la bouche qui se fend.
Le lièvre fuit et court.
Jean Rouche, ce conte qui est issu d'une anthologie nègre de Blaise Cendrars, c'est un conte qui vous est familier en fait, parce que sur ce genre de conte, vous avez réfléchi et vous avez constitué, je dirais presque, un type particulier d'ethnologie.
Oui, je me souviens très bien de l'édition du Sans Pareil de Blaise Cendrars et je ne me souviens pas de ce conte en particulier sur l'origine de la mort, mais c'est un problème énorme, et sur lequel... Peut-être un jour, nous aurons des clés, c'est-à-dire que les contes africains donneront des réponses à la paléontologie et à l'origine des hommes, et à l'origine de la mort. Par exemple, chez des populations que je connais bien, je ne sais pas d'où vient ce conte, c'est peut-être l'inconvénient de cette anthologie, c'était mis dans l'annexe, mais ça n'a pas une grande importance. Chez les Dogons de la falaise de Bandiagara, au Mali, l'origine de la mort est venue en même temps que l'origine de la parole. C'est-à-dire que les hommes étaient immortels tant qu'ils n'avaient pas de langage articulé. Et à partir du moment où Dieu leur a donné la parole, ils ont commencé à mourir, puisqu'ils pouvaient l'un l'autre se dire « tu vas mourir ». Donc on pense, si vous voulez, que l'homo sapiens, ou sapiens sapiens, pour parler le langage particulier des préhistoriens, effectivement, c'est le moment où l'homme, descendu de ses arbres, le premier homme, ont commencé à faire des rituels funéraires, C'est-à-dire qu'ils avaient une conscience collective de la mort, et pour ça, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir avoir le langage. Car il semble qu'il n'y ait pas d'animaux qui fassent la même chose. Alors, tout ça vient de, effectivement, de contes qui sont les vieux mythes. Les vieux mythes, et dont certains sont très beaux. Un des plus beaux contes d'Ogon que racontait Griot au début du monde, donc quand les hommes existaient, les enfants décrochaient les étoiles dans le ciel pour jouer avec. Et puis les mamans remettaient les étoiles dans le ciel. Alors Dieu a considéré que ses enfants introduisaient un peu de désordre, et il a repoussé le ciel un peu plus loin, et depuis on ne peut plus jouer avec les étoiles.
Alors ces contes, justement, illustrent en fait les mythes.
Bien sûr, c'est la façon dont on peut, non pas apprendre les mythes à de tout jeunes enfants, mais à les faire participer, c'est-à-dire un peu à les inquiéter. Quand on raconte une histoire comme celle-là, l'histoire du lièvre, qui est toujours le maladroit, le lièvre, c'est le renard, c'est l'inventeur de la mort, c'est celui qui court partout et qui fait des choses à l'envers. Bien, ces choses à l'envers font, pour l'esprit des enfants, c'est le désordre nécessaire, c'est-à-dire c'est comme ça que la civilisation se crée.
L'histoire du Sonrai est essentiellement liée au cours du Niger. Dans le sol s'est inscrit déjà le caractère des hommes. Hommes de la vallée fertile, riches, mais lâches, et soumis à toutes les influences et maîtrises étrangères. Hommes des brousses âpres, paysans pauvres, mais guerriers rudes et libres. Si l'histoire ne néglige rien, elle n'oublie rien non plus. Ainsi, malgré berbères, malinqués, marocains ou français, les archaïques maîtres du sol ont conservé un pouvoir considérable. La société est l'image même de son histoire. L'homme est à la place que ses ancêtres lui ont faite. Sans doute, il ne lui est pas interdit de la modifier, comme jadis, esclaves et capitaines s'emparaient par la force du bonnet de leur maître. Encore faut-il savoir le faire en temps opportun, si l'on ne veut pas risquer la punition exemplaire, car l'ordre de la société ne permet pas les aventures personnelles. Ceci explique l'extraordinaire fidélité du Sonrai à lui-même. Partout, nous rencontrons cette double notion de permanence et d'évolution. L'histoire est faite de ses excès. L'excès de richesse entraînant l'excès de pillage, l'excès de pouvoir entraînant l'excès de déchéance ultérieure, l'excès de rigorisme religieux entraînant l'excès de réaction anti-religieuse. Les Sonrai considèrent cette suite de déséquilibres comme nécessaire à l'équilibre final qui en résulte, c'est-à-dire à l'ordre du monde. C'est Dieu, Irikoi, notre maître, qui conduit ce jeu impitoyable, aidé par toutes ces divinités secondaires. Ce qui fait des hommes de simples humains ou des héros et leur attitude vis-à-vis de ces règles. Les uns, craintivement, prennent garde de rompre l'ordre, mais d'autres n'hésitent pas à se livrer à des actes plus dangereux.
Jean Rouge, ce texte est issu de contributions à l'histoire des Songhai. C'est la conclusion de votre thèse.
C'était ma thèse complémentaire, car à cette époque, on passait une thèse d'État avec deux thèses, une complémentaire et la principale. Et c'est le résultat d'un travail sur l'histoire des Songhai, venu des textes écrits et des traditions orales que j'avais recueillies pendant 4 ou 5 ans.
Alors justement, tradition orale qui transmet l'histoire. C'est la tradition orale qui transmet l'histoire, et c'est la tradition orale que vous avez voulu, décrire, mais en même temps montrer avec le cinéma.
Oui, si vous voulez, moi quand j'ai fait ce travail-là, je me suis aperçu que l'histoire était vivante, l'histoire africaine est vivante. Et elle rejoint le mythe, les héros deviennent peu à peu des dieux, comme dans les vieilles histoires grecques, c'est la même histoire. Et elle est toujours faite d'une tragédie qui aurait plu beaucoup à Nietzsche, qui est la tragédie du héros qui a dépassé la mesure, qui est donc condamné à en payer par sa vie le prix, mais ses descendants, ceux qui survivent, disent « il avait raison ». Il découvre qu'il avait raison quelques 20 ans, 200 ans ou 2000 ans plus tard. Et ça, c'est une notion fondamentale dans ces histoires africaines. Alors, moi, ce qui me semblait important, et c'était un peu le but de l'action que j'ai eue ensuite, c'est de me dire, mais enfin, voilà des gens qui vivent dans les villages, que l'on appelle les vieux qui savent, les grands-mères qui savent, qui racontent des histoires, et les historiens n'en tiennent jamais compte. Ce sont des histoires merveilleuses qui racontent aux enfants leur propre histoire. C'est Roland à Roncevaux, c'est Orlando Furioso. Bien, apprendre l'histoire de Charlemagne en voyant des marionnettes siciliennes, ça devrait être la façon dont on devrait procéder dans les lycées et les écoles.
Alors ces voix du silence, parce qu'elles ne sont pas connues comme telles, sont en même temps contestation de l'ordre établi. Parce bien que sûr. Quand c'est créativité, la bien créativité, sûr. Vous écrivez vous-même que c'est une contestation de l'ordre établi dans cette tradition orale.
Bien sûr, et des héros tout d'un coup deviennent des malandrins et réciproquement. C'est le temps des grands bandits, c'est l'histoire de tout le cinéma nouveau-brésilien. Le cinéma nouveau-brésilien est parti du Nord-Est où était né Glauber Rocha. Et c'est l'histoire de ces cangaceros qui étaient des bandits et deviennent des héros. Et qui sont à la base de la poésie, sans doute de la culture brésilienne. Alors, cette histoire vivante est tellement importante que, moi je me suis dit, mais enfin c'est quand même ridicule, il faut faire rentrer les tenants de cette parole à la Sorbonne. Alors c'est ainsi qu'on a organisé, il y a 15 ans, un colloque à Bamako, où on a fait rentrer des griots en Sorbonne. Ils ne parlaient même pas le français. Ils étaient en face de véritables professeurs en Sorbonne qui s'apercevait que ces gens parlaient du même sujet qu'eux, mais d'une manière différente. Alors moi je pense que c'est un peu le rôle de l'anthropologue, c'est de brouiller les cartes continuellement et de redonner à la parole, à ces voix du silence, de la rendre tonitruante.
Alors comment est-ce qu'on peut à la fois contester l'ordre établi et en même temps transmettre quelque chose qui est de l'ordre de la tradition? Parce que les deux se font simultanément. Et quand vous rendez compte de la tradition orale, je suppose que vous rendez compte de ces deux aspects de la tradition orale.
Bien sûr, on essaie d'éclairer l'une par l'autre. Il y a eu, dans la population des Sorbonnes que j'étudiais, nous avons la chance d'avoir des textes qui datent du 15e et du 16e siècle, écrits par des marabouts de Tombouctou, qui ont décrit ces mêmes histoires. Et confronter cette histoire écrite, et en général, dégager de sa saveur, et surtout avec l'optique islamique de l'époque, de la confronter avec l'histoire de ces mêmes personnages, mais racontée par ceux qui se sont transmis de bouche à oreille pendant des générations et des générations, les différents épisodes, c'est fascinant. Car tout d'un coup, on s'aperçoit que les uns éclairent les autres d'une lumière un peu froide, qui est la lumière de l'histoire telle que nous la comprenons, de l'histoire scientiste, et les autres l'éclairent de ces frissons, tout d'un coup de ces révélations fantastiques dans lesquelles plus rien n'est impossible.
L'ethnologie inversée a pour objet un ailleurs qu'on appelle France, une partie de cet Occident dont le tiers-monde, qu'il s'agisse des peuples ou de la majorité de l'intelligentsia, a une perception mythique parce qu'il y est donné ou qu'il s'y donne comme modèle de développement. L'image mythe de l'Occident dans les pays du Sud sortis de leur isolement, c'est sur le plan culturel les humanités gréco-latines, le développement de la pensée scientifique, la religion chrétienne et une tradition prométhéenne. Pourtant, tout cela ne constitue qu'un aspect, certes dominant, d'un tout culturel dont la visibilité intégrale est hypothéquée par des facteurs idéologiques et l'éloignement géographique. L'autre aspect, la face cachée de la culture occidentale et française en l'occurrence, comporte des cultures ethniques et régionales, des traditions paysannes, des pensées et des pratiques magiques, diffuses ou non, vivaces au niveau du peuple. L'ethnologie inversée, dans cette dualité culturelle, prend pour objet privilégié cette face cachée, ce versant sauvage.
Alors là, il s'agit d'une réflexion de deux Noirs sur les Français, et ils veulent faire au fond de l'ethnologie à rebours, de l'ethnologie inversée. Alors Jean Rouge, si on a choisi ce texte qui est issu d'un regard noir publié par les éditions Autrement, c'est parce qu'on voudrait avoir votre point de vue sur cette ethnologie que les Noirs veulent envisager de pratiquer sur la France d'aujourd'hui.
Moi, c'est un de mes vieux rêves. Si vous voulez, à un moment donné, avec quelques amis, nous avions créé un terme, nous faisions de l'anthropologie partagée. Mais l'anthropologie partagée, c'était celle qui consistait à faire notre métier d'anthropologue, par exemple en Afrique, mais en admettant que ceux auxquels on posait des questions, par exemple, croyez-vous en Dieu, puissent vous poser la même question. Et à ce moment-là, il y avait un dialogue, et non pas ce monologue un peu infernal des gens qui font des questionnaires. Quand j'ai tourné un film qui est passé récemment à la télévision, qui s'appelait Petit à Petit, je voulais faire cela, des lettres persanes, africaines, en profitant du voyage d'un de mes plus vieux amis africains, d'Amourezika, qui est dans tous mes films, et avec lequel j'ai travaillé cette histoire du Sonrail dont on parlait tout à l'heure, au cours de randonnées, de chevauchées à travers la boucle du Niger. C'était d'essayer de savoir comment il voyait Paris. Il avait été envoyé à Paris avec une bourse de l'UNESCO, et je lui ai demandé d'écrire son journal de route. Le journal de route... qui portait un titre merveilleux, comme aucun journal de route n'en porterait, cela s'appelait « Mystérieux et dommage d'affaires ». Mystérieux parce qu'on découvre le mystère, mais que dommage d'affaires parce que malheureusement, les bagages et les vêtements s'abîment. Alors, mystérieux et dommage d'affaires, où le voyageur était une sorte de géographie de Paris, et que nous avons filmé. Et cette géographie était au niveau assez bas, c'était la découverte de l'anthropologie physique, de la manière dont les gens s'habillent, de l'impolitesse des Parisiens qui ne se saluent jamais quand ils se croisent dans la rue, de découvrir que les enfants vous disent bonjour mais jamais les maîtresses, donc que les écoles que nous avons ne valent rien, etc. C'était sur ce thème-là. Et on aurait pu tourner pendant des jours et des jours, car il y en a vu beaucoup.
Alors vous avez tourné dans ce sens et vous avez envisagé cette perspective, mais Masser Diallo expliquait il y a encore quelques semaines, lorsque nous étions avec lui, qu'en fait, ce qui est difficile pour lui, c'est que c'est presque un tabou, l'ethnologie, pour des gens qui viennent d'Afrique noire. Et le fait que cette ethnologie inverse soit pratiquée par des Noirs africains, c'est véritablement la transgression d'un tabou très grave en France. Est-ce que vous êtes d'accord?
Bien sûr.
Un certain nombre d'ethnologues sont choqués.
Bien sûr, et ça, c'est ça qui a marché. Moi, ce que je lui reprochais, c'est son manque d'ambition. Dans son texte, il voudrait, c'est très bien, mais il commence par le début, il voudrait que des immigrés parlent un peu des Blancs qu'ils côtoient, de la façon dont ils vont, dont ils se conduisent. Moi, je pense que des gens comme lui, et que des philosophes africains, et Dieu sait s'il y en a, il y a des gens très astucieux, enfin des historiens, pourraient étudier nos structures les plus folles, faire un portrait d'anthropologie des membres du gouvernement, par exemple d'étudier l'énergie nucléaire, par exemple de voir d'où viennent nos marchandises, par exemple fouiller dans nos poubelles et voir pourquoi nous jetons tout à l'heure on se promenait autour de votre maison et nous avons découvert une valise absolument splendide. Pour un Africain, c'est considérable. Pourquoi jette-t-on des valises? Alors cet art des poubelles que nous avons perdu, les Africains pourraient nous le remettre en forme et nous poser des questions inquiétantes. Si vous voulez, pour moi, l'anthropologie, c'est cela. C'est mettre en circulation des objets inquiétants. Alors, il faut aller très loin, il faut remettre notre culture en question. Et pour cela, l'œil de l'étranger est indispensable, car l'étranger ne voit pas que ce qu'il sait, il devine ce que les gens qu'il regarde ne savent pas. Alors, cette anthropologie-là, si les Africains arrivaient à la faire, mais ce serait absolument extraordinaire, on pourrait faire du comparatif. On pourrait savoir pourquoi l'Europe ne fonctionne pas. Par exemple, la différence qui existe, et qui est évidente pour des Africains. Ils les connaissent très bien, entre les Suisses, les Allemands, les Anglais, les Français, les Espagnols, les Italiens, les Belges, les Hollandais. C'est un travail merveilleux. Malheureusement, qui fera ça? L'UNESCO, peut-être. Thank you.
Dans mon film « Les maîtres fous », j'ai voulu montrer les phénomènes de possession, de transe. Dans cet univers de miroirs fragiles, à côté de ces hommes ou de ces femmes dont un acte maladroit peut déclencher ou arrêter la transe, la présence de l'observateur ne peut être neutre. Qu'il le veuille ou non, il est lui-même intégré au mouvement général et ses réactions les plus minimes sont interprétées par référence à ce système particulier de pensée. Tous les gens que je filme aujourd'hui connaissent la caméra et savent ce qu'elle est capable de voir et d'entendre. Ils ont assisté à des projections successives des films au cours de montage. En fait, ils réagissent devant cet art du reflet visuel et sonore comme ils le font en face de l'art public, de la possession ou de l'art privé, de la magie et de la sorcellerie. La personne du cinéaste se métamorphose sous leurs yeux au cours de la prise de vue. Ils ne parlent plus sinon pour crier des mots incompréhensibles, moteur, coupé. Ils ne regardent plus que par l'intermédiaire d'un appendice étrange, une caméra et son viseur. Ils n'écoutent plus que par l'intermédiaire d'un micro-canon. Paradoxalement, c'est grâce à cet attirail, grâce à ce comportement nouveau, que le cinéaste peut s'intégrer au rituel. Chorégraphie étrange, qui, si elle est inspirée, rend le caméraman et son adjoint le preneur de son, non pas invisible, mais participant à la cérémonie en cours. Sur le terrain, le simple observateur se modifie. Il n'est plus, quand il travaille, celui qui saluait les anciens à l'orée du village. Le ciné-dialogue permanent me paraît l'un des biais intéressants de la démarche ethnographique aujourd'hui. La connaissance n'est plus un secret volé, dévoré ensuite dans les temples occidentaux de la connaissance. Elle est le résultat d'une quête sans fin où ethnographiés et ethnographes s'engagent sur un chemin que certains d'entre nous appellent déjà l'anthropologie partagée.
Alors dans votre film « Les maîtres fous », vous avez voulu montrer ce qu'étaient les phénomènes de possession, Jean Rouch, et d'une certaine façon, vous avez voulu en même temps mettre à distance, objectiver une certaine pratique africaine. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous, quelquefois, le danger de faire dans l'entomologie, en face des populations que vous analysez? Est-ce qu'il n'y risque pas d'y avoir, dans toute ethnologie, ce danger, et en conséquence, quelque chose qui ne prendrait pas en compte l'autre peuple comme quelqu'un se développant?
Oui, c'est ce que m'a reproché Samuel Ousmane quand il me disait, avec une grande gentillesse, une grande cruauté, qui est le signe de l'amitié, tu nous observes comme des insectes. Ben, c'est très embêtant d'être observé comme des insectes. Mais moi, je lui répondais sur Maître Fou. Mais Maître Fou, pour moi, ce n'est pas l'anthropologie des travailleurs du port, des mines ou des rues de la Gold Coast de cette époque. Le film a été tourné en 1954. C'est l'anthropologie des coloniaux. C'est l'anthropologie des Blancs. Et le titre que j'ai pris après une projection dramatique qui a eu lieu au Musée de l'Homme, où j'ai présenté pour la première fois, c'était en 1955, une première copie qui venait du laboratoire de ce film, qui était muet, et dont j'improvisais le commentaire. Au fur et à mesure que je parlais dans la cabine de projection, je sentais une tempête dans la salle, où il y avait tous mes collègues anthropologues, et où il y avait les jeunes intellectuels africains de l'époque, les compagnons de présence africaine. Et quand je suis descendu, mon professeur Marcel Griot était rouge comme un beefsteak saignant, et les Africains étaient gris, comme des sols mal cuits. Et Griot me dit, Rouge, il faut détruire immédiatement ce film, c'est un scandale. Et les Africains disent, oui, Griot a raison, il faut détruire ce film, c'est un scandale. Alors, ces deux voix concordantes venant de personnes aussi différentes m'ont fait beaucoup réfléchir. Mon camarade Luc Dehesch est venu à mon secours, en vieux surréaliste belge, m'a dit « Non, au contraire, ce film est un scandale et c'est pour ça qu'il faut le garder. » Effectivement, on ne l'a pas détruit. Et j'ai compris pourquoi Griol refusait ce film. Parce que il voyait dans ces danses de possession, où les dieux n'étaient plus les génies de la brousse, ou les génies du fleuve, les génies du tonnerre, mais étaient nous, étaient lui-même, incarnés par des gens, ils étaient cruels, ridicules, carrés, maladroits. Pour lui, c'était son image qu'il voyait. Et cette image, il a refusé. Pour les Africains, l'image qu'il voyait, c'était celle de ces sauvages qui mangent un chien. Et ils ne se rendaient pas compte que ces sauvages qui mangeaient des chiens, c'était des blancs. C'est-à-dire ces blancs se conduisaient de telle façon qu'ils rompaient tous les interdits, étaient capables de manger des chiens. Alors, ce film a eu des tas de problèmes. Il est sorti, c'est le premier film que j'ai fait qui est sorti en salle. Il est sorti à la Pagode en même temps que le premier film de Bergman. La découverte de Bergman s'est faite en même temps que Les Maîtres Fous. Blaise Senghor, réalisateur sénégalais qui est mort depuis, me disait, mais quand je suis sorti de là, j'avais l'impression que tout le monde me regardait en disant, en voilà encore un qui va manger un chien. Moi je disais, mais non, il ne se disait pas ça, il disait, en voilà un qui est capable de nous montrer, nous renvoyer notre propre image. Alors, le film a vécu, il était interdit dans beaucoup d'endroits, il a eu une vie tumultueuse. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu un classique, et peut-être le seul film sur le colonialisme, car il montrait ces deux aspects. Et pour la première fois, il y avait ce regard inversé en même temps, c'est-à-dire un rituel dans lequel, moi, un peu naïvement, je montrais qu'en se livrant à cela, ces jeunes gens, en mangeant un chien, évitaient de tuer leur grand-mère ou d'envoyer les autres dans des camps de concentration. Et l'autre, où nous découvrions notre propre image et la façon ridicule que nous avions de marcher, de hurler, d'être toujours en colère.
Est-ce que vous croyez vraiment que, par exemple, les Occidentaux blancs qui regardaient ce genre de film se voyaient bien et se comprenaient bien qu'ils étaient critiqués?
Pas du tout.
Griot le comprenait.
Griot le comprenait, c'est parce qu'il est anthropologue. Mais les autres le sentaient et ils étaient extrêmement gênés. Et pour moi, ce film est un témoignage où j'ai pu donner la parole à des gens très simples, des manœuvres des villes, des gens qui vivraient ici dans les quartiers poubelles qui entourent Paris. Et qui nous renvoyait une image impitoyable, donc qui devait faire réfléchir, et dès 54, qui annonçait tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire que les gens partiraient et qu'il y aurait autre chose.
Est-ce qu'on peut dire que ces gens qui pratiquaient ces rituels sont d'une certaine façon des intellectuels, ou ont d'une certaine façon une élaboration? Alors je ne sais pas, le mot intellectuel a des connotations tellement spécifiques à nos pays. Bon, est-ce qu'on peut s'interroger quand même sur leur pratique intellectuelle, et est-ce qu'on peut dire qu'ils sont condamnés à un certain silence dans leur pays et que vous leur avez rendu la parole avec ce genre de film?
Là, il n'était pas qu'on est dans un silence. Ces rituels avaient lieu dans des coins perdus, avaient lieu dans les quartiers les plus misérables d'Accra, où aucun Anglais n'allait jamais. Donc ils étaient dans cette espèce de ghetto où la liberté peut exister puisque personne n'y rentre. Mais la question que vous posez me paraît pertinente. C'est une de mes théories qui est très difficile à défendre. En réfléchissant à la carrière de ce film, je me suis dit que nous avions peut-être là l'exemple d'un concept, au strict sens hegelien. Hegel disait, il faut concevoir des concepts inconcevables. Voilà un concept inconcevable de ce qu'est la colonisation pour des Africains illettrés. Autrement dit, dans une culture sans écriture, la seule façon d'exprimer collectivement un concept, c'est de la vivre par ces rituels qui sont des rituels de caractère théâtral, et dans lequel on exprime cette réalité. On a donc là l'exemple d'un concept sans écriture.
Justement, la traduction de ce concept que vous donnez par le film et par le type de cinéma que vous pratiquez, c'est d'une certaine façon rendre la parole non seulement à des intellectuels, mais à toute une population.
La parole et le geste. C'est de la chanson de geste, et qui est sans doute l'image la plus proche de la réalité.
Voix du silence, une émission d'Antoine Spire.
Avec la collaboration de Daniel Hénoc et de Céline Ménard. Texte dit par Marie-Françoise Audolan, Frédéric Cantrel et Michel Favori.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 7 septembre 1985. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.